Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Survivre ou progresser? Est-ce que vous voulez ressembler à une imprimante sophistiquée marquée par l'obsolescence programmée ou à un bon vin qui se bonifie? Voilà, nous sommes deux pour vous donner quelques pistes cet après-midi. Brad Dixon et moi-même, Étienne Gros-Renaud. Dans quelques minutes, quelques secondes, Brad va apporter l'introduction, puis j'apporterai le point 1, et lui le point 2, moi le point 3, et Brad la conclusion. Et ensuite, nous aurons un temps de questions. Quelques mots très rapides de présentation. Donc, je suis pasteur depuis 1987, bientôt 30 ans, 15 ans à Montpellier, 14 ans à Mulhouse, dans le contexte de l'Union d'Églises Association Baptiste, AEEBLF, mais aussi en relation beaucoup plus largement avec d'autres églises et unions d'Églises. Il y a 30 ans, du temps de l'AEF, l'Alliance évangélique, et puis le GBU aussi a marqué mon regard sur les autres. Et bien sûr l'IBG, j'ai fait partie de l'expérience lancée par Mike Evans il y a 25 ans, je ne sais plus exactement. Et j'ai croisé, en visitant des églises, souvent des personnes ayant la même question que moi, comment mieux marcher? Comment tenir bon dans la durée, mieux que cela? Comment progresser? Et je suis heureux d'avoir creusé ce thème avec Brad Dixon.
Voilà, vous l'aurez compris, Brad Dixon. Je suis missionnaire d'origine canadienne. Je suis en France depuis 1980. J'ai une épouse merveilleuse, Catherine, qui est française. Nous avons trois grands enfants, dont deux mariés. Et nous sommes aussi grands-parents de quatre petits-enfants. Je suis aussi impliqué dans le ministère d'enseignement ici et le comité IBG depuis 1992. Donc des origines avec Mike Evans. Mais ce n'est probablement pas pour cela qu'on m'a demandé d'animer cet atelier. Il y a peut-être d'abord un lien avec mon âge, je ne sais pas, j'ai 60 ans bientôt, donc on peut déjà me qualifier de survivor dans le ministère, que j'ai démarré assez jeune, à l'âge de 23 ans déjà, donc ça fait 35 ans que je suis dans un ministère qu'on pourrait qualifier de plein temps, dans différentes mutations de travailleurs jeunesse, implanteur d'église, pasteur, et puis un des responsables de notre union d'église, les CAEF, Communauté Assemblée Évangélique de France. Et c'est probablement surtout à ce deuxième titre qu'on m'a demandé de co-animer l'atelier avec Étienne, puisque j'accompagne des pasteurs dans mon rôle dans la commission ministère de notre union d'église, et plus particulièrement, je suis responsable du recrutement des futurs pasteurs, implanteurs, évangélistes dans notre famille d'église. Et je dois avouer que très franchement, ce ministère de recrutement, je le pratique avec crainte et tremblement. Je le dis souvent à mon épouse, j'ai la trouille d'induire des gens en erreur, de leur vendre de la poudre aux yeux. Je suis comme tiraillé. D'un côté, je suis enthousiaste pour le ministère. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ce qu'il m'a donné de vivre en le servant. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie, dans nos églises. Et puis, il y a tellement de besoins aussi dans notre seule famille d'églises. On a en ce moment une liste de 10 églises qui ont tout le financement pour embauché un pasteur, un ministère dans leur église et qui ne trouve difficilement même pas de candidat. Donc ça, c'est une petite page publicité. Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez me voir à la sortie. Mais je suis tiraillé, comme j'ai dit. D'un côté, je suis enthousiaste. D'autre côté, j'ai peur pour ces jeunes familles que je rencontre souvent, des jeunes couples, 27, 28, 30 ans, plus parfois, avec un, deux, trois enfants, qui ont une situation professionnelle stable et qui sont prêts, avec tout leur enthousiasme, peut-être leur idéalisme, à quitter cette situation pour se lancer dans un ministère à temps plein. Et quand je rencontre des gens, je peux difficilement empêcher des pensées à me venir à l'esprit, des souvenirs de personnes que j'ai rencontrées. Je vais changer les noms pour protéger les innocents, mais les cas que je vais vous raconter sont de vraies histoires de personnes que je connais personnellement. Je pense à Jacques, cassé à tel point par son conseil d'église après seulement 3 ans de ministère, qui s'est retiré définitivement du ministère avec beaucoup de mal pour se réinsérer dans la vie professionnelle. Je pense à Arnaud, dont le mariage a cassé en partie à cause du stress du ministère. Je pense à Jocelyne, qui en est arrivée à assister à une autre église par rapport à celle dont son mari était pasteur. Je pense à Bernard et Ariane, dont les enfants se sont tous détournés de la foi. Je pense à Charlie, qui est devenu cynique par rapport à l'Église, par rapport au ministère, mais qui continue en tant que pasteur parce qu'il ne sait rien faire d'autre et la retraite n'est pas trop loin. Je pense aussi à Émeric, qui a trompé sa femme. Je pense à Léon qui a fait un burn-out. Je pense à Mathilde qui est tombée dans une dépression profonde. Je pense à David qui a perdu la foi. Et je pourrais en raconter d'autres et je pense que Étienne pourrait en raconter aussi. Alors, comment puis-je accomplir ce ministère de recrutement? Eh bien, c'est surtout grâce à un verset biblique que j'affiche ici, voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, et je ne voudrais pas diriger mes remarques uniquement par rapport à des plaintants, mais de manière générale, quelqu'un qui souhaite servir le Seigneur et notamment la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche. J'espère que vous le croyez, c'est la parole même de Dieu, c'est ça qui me pousse en avant. Donc je veux continuer à recruter et aussi encourager et accompagner les personnes dans le ministère. Voilà le plan de ce que nous allons faire pendant les 90 minutes qui sont devant nous. Étienne vient tout de suite là au micro pour parler du développement spirituel. Ensuite, je reprendrai la parole pour parler du développement personnel et à nouveau Étienne pour le développement professionnel. Il y aura ensuite des échanges et puis un temps de prière à 2 ou 3 ensemble.
Il serait malheureusement faux de présumer que les pasteurs et missionnaires progressent naturellement dans leur marche chrétienne grâce au service particulier qui est le leur. La gestion du temps est très souvent une grande difficulté pour eux. L'urgent étouffe l'essentiel. Le ministère se substitue vite à la relation avec le Seigneur. Ils connaissent tous les moyens de grâce que Dieu a donnés à ses élus pour progresser et pour se protéger des attaques de l'ennemi. Ils exhortent volontiers leurs paroissiens à s'en saisir, mais quelquefois le cordonnier est le moins bien chaussé. D'un des livres qui nous a aidés à travailler ensemble avec Brad Dixon, un livre de Bob Burns, qui nous exhorte à soigner certains aspects de notre vie. Je vous suggère de réfléchir maintenant à l'importance du développement de notre vie spirituelle pour tenir bon, pour tenir dans la durée, autour de quatre textes principaux. J'en citerai l'un ou l'autre en plus. Psaume 1, Luc 10, Éphésiens 6 et 1 Thessaloniciens 4. Psaume 1 est le texte auquel j'ai très rapidement pensé, avec cette belle image qui introduit tout le psautier de l'arbre qui tient dans la durée, parce qu'il est enraciné au bon endroit. Premier psaume du psautier qui donne les bases de la vie du croyant, image très forte qui ne dit que pour tenir dans la durée, il faut que les racines soient au bon endroit. J'ajoute Ésaïe 40, « Ils renouvellent leur force, ils donnent de la force à celui qui est fatigué. » Il paraît que ça arrive à certaines personnes dans le ministère. « Ils augmentent la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 29 à 31. Une semaine où j'étais au bout du rouleau, j'ai reçu une carte postale de ma mère qui me citait ces versets-là. C'est une des seules cartes qu'elle m'a envoyées, parce qu'on se voit souvent, qui m'a rappelé qu'il n'y a qu'un seul endroit où je peux vraiment être ressourcé quand on est fatigué et à bout de ressources. C'est ce que le Seigneur lui-même va enseigner avec un des textes que je connais depuis des décennies, qui a trouvé sa place dans ma petite fiche des choses à ne jamais oublier, mais qui a du mal à vraiment trouver de sa place dans ma vie. Et pourtant, c'est tellement simple. Luc 10, 42. Celui qui a pu résumer toute la loi en deux lignes, « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même », et celui qui a dit ce qu'aucun d'entre nous n'aurait pu inventer un jour, une seule chose est nécessaire. S'inscrire à l'IBG, non. C'est une excellente chose. Une seule chose est nécessaire. Luc 10, 42, et Jésus commentait à Marthe l'importance de l'attitude de Marie qui était à ses pieds. Le même Jésus a laissé comme image dans Jean 15 que sans lui nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Alors je suis bête. Parce qu'il y a tellement de fois où j'ai voulu mener des projets importants en négligeant ma relation avec le Seigneur. Donc vous pouvez le dire, je suis bête. L'apôtre Paul est très sage quand il dit à la fin de sa vie que son grand but, c'est de le connaître. Philippiens 3, 10. Lui, Jésus-Christ. Oui, avoir une bonne théologie, comprendre au plus profond de nous-mêmes que Dieu est souverain, qu'il prend soin de nous, toujours mieux connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la solution pour tenir dans la durée. Cela nourrit ma confiance, cela me fortifie à long terme quand je regarde à celui qui a commencé en nous une œuvre bonne, pour la rendre parfaite, Philippiens 1, 6. Psaume 1, être enraciné. Luc 10, 42, que nous avons du mal. Je me suis moqué de moi, mais j'ose vous inclure parmi ceux qui ont du mal. Je n'en ai jamais trouvé qui m'ont dit le contraire. Nous avons du mal à être cohérents avec cela et à vraiment nous souvenir qu'une seule chose est nécessaire. Luc 10, 42. Éphésiens 6. Pour tenir dans la durée, je vous suggère qu'il est extrêmement utile, pertinent, que nous reconnaissions que nous sommes dans un combat. Éphésiens 6 nous parle des armes desquelles nous devons être équipés pour le combat. Vocabulaire guerrier, j'en conviens, pour quelqu'un qui a été décrit comme doux. Mais il nous faut appeler un chat. Nous sommes dans un très grand combat. Et terrible combat. et je vous propose qu'il est important que nous le reconnaissions devant Dieu, devant des amis proches, pour que nous luttions ensemble. Éphésiens 6 nous parle de toutes les armes que Dieu nous offre pour surmonter et tenir ferme. Éphésiens 6, 11, Éphésiens 6, 13. Ne nous trompons pas de combat, et cela nous arrive. Nous nous déchirons quelquefois les uns les autres. Et nous oublions que le vrai ennemi, ce n'est pas mon frère casse-pied ou ma sœur fatigante. C'est l'ennemi, Éphésiens 6. Ne nous trompons pas de combat. David Brown, dans son tout dernier livre, Disciple 24 sur 24, a repéré trois combats qui sont très proches de ce que j'ai découvert dans 1 Thessaloniciens, donc je vous les propose. Trois combats importants, la prière, la lutte contre le péché et le combat de la foi. Dans la prière, David Brown met aussi le culte personnel, l'intimité avec le Seigneur, la piété. La lutte contre le péché, je sors d'un atelier extrêmement intéressant avec Paul Wells, et j'en reparle ici. Le péché est ce qui fait qu'Étienne Gros-Renault a perdu beaucoup de temps dans sa vie. Plus, c'est une raison plus importante que tous les frères et sœurs compliqués que j'ai pu côtoyer. Mon péché est la raison principale de ce qui m'a fait perdre du temps et perdre des forces dans le ministère et dans ma vie chrétienne. Et puis le combat de la foi, l'importance de la saine doctrine et des progrès. On retrouve cela dans 1 Thessaloniciens et le fameux chapitre de la persévérance et des progrès au chapitre 4. Chapitre 4, verset 3, « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, d'ailleurs vous le faites, eh bien, progressez encore. » Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Le chapitre de la persévérance et des progrès me dit que je dois tordre le cou au péché. Toujours 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, un des versets les plus courts de toute la Bible. Priez sans cesse. Toujours 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Paul bénit Dieu pour la parole agissante. 1 Thessaloniciens 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non pas comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous retrouvons la prière, la lutte contre le péché et la place de la parole agissante. Ça vous dérange que je dise des choses simples ? J'en ai besoin. Mini-conclusion du point. Voulons-nous survivre ou progresser ? Que faisons-nous pour ? Nous voulons dépasser la sagesse populaire qui a sa pertinence, mais qui ne nous suffira jamais pour tenir dans le ministère, au service du meilleur des maîtres. Je rappelle quelques formulations intéressantes de la sagesse populaire. Celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Très sage. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très sage. Qui va piano, va sano et va lontano. C'est de l'italien. En français, ça donne qui va doucement, va sainement et va loin. C'est vrai, mais nous voulons dépasser cela. Et cette sagesse de la gestion de nos forces ne va jamais nous suffire pour tenir à long terme au service du meilleur des maîtres. Et je redis en mini-synthèse ce que j'ai dit depuis quelques minutes. Nous voulons ressembler au bel arbre du psaume 1. Planté au bon endroit et enraciné en celui qui donne la vie et la renouvelle à profusion. Nous n'arriverons jamais au bout des réserves. Bonne nouvelle, hein ? Deuxièmement, nous voulons nous souvenir que sans Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. Et nous voulons faire de la priorité des priorités notre règle de vie imperturbable. Le connaître lui. Toujours plus connaître notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mystérieux, mais révélé. Mystérieux, mais merveilleux. Troisièmement, nous voulons avec sa force apprendre à manier toutes les armes qui viennent de lui pour persévérer dans un combat qui est rude, très rude, mais la victoire est certaine.
Merci Étienne. Donc, dans un deuxième temps, on a donné comme titre le développement personnel. Je crains que ça vous induise en erreur. Ce ne sera pas comme dans les magazines, le développement personnel. Mais je vais parler surtout de notre positionnement par rapport à notre ministère. Et notre positionnement par rapport à Dieu, notre positionnement par rapport à notre famille. Il m'a fallu du temps pour comprendre peut-être les motivations qui étaient au fond de mon cœur pour mon ministère et qui ont leur importance par rapport à ce positionnement. J'espère que vous comprendrez mieux quand j'en aurai un peu plus parlé. Un des livres que j'ai lu dans ma préparation s'appelle « Zeal without burnout » en anglais, « Zeal without burnout », c'est-à-dire « Le zèle sans le burnout », pour parler en bon français. C'est un auteur qui s'appelle Christopher Ash. Et la thèse de ce petit livre, c'est que le burn-out est parfois, alors je dis bien parfois, et partiellement, je dis bien partiellement, le fruit d'une idolâtrie du ministère. Je vais le redire. Le burn-out est parfois et partiellement un fruit, un mauvais fruit, évidemment, de l'idolâtrie du ministère, c'est-à-dire que tout ce qui devient idole dans notre vie, c'est quelque chose que nous servons finalement, et si ce n'est pas Dieu lui-même, c'est un faux Dieu, et ce faux Dieu finit toujours par nous dévorer. Je vais essayer d'expliquer. Mon épouse a un autre nom pour ce problème. Un jour, elle m'a dit, « Brad, tu sais quel est ton problème ?» J'ai dit, « Non, mais je sens que je vais savoir très rapidement. Tu as un complexe de Messie. » Ah bon ? C'est quoi le complexe du Messie ? Ben, c'est pour se prendre pour le Messie. Croire qu'on peut tout faire dans le ministère, répondre à tous les problèmes des gens autour de nous, répondre à ce problème... tout en plaisant aux gens. C'est un positionnement impossible par rapport au ministère. Elle me l'a dit dans un contexte particulier. J'étais jeune pasteur d'une église. Quelques familles ont décidé de quitter en bloc cette église. Elles étaient insatisfaites de mon leadership et de mon enseignement. Ça m'a fait très mal. J'étais au bord de la dépression comme un précipice qui était là et je sentais que je tanguais au bord de ce précipice. Et elle m'a dit, mais ça montre que ton ministère est trop important pour toi. Vous voyez l'intensité du deuil de quelque chose que nous perdons est proportionnelle à l'importance que nous avons accordée à cette chose. L'intensité du deuil est proportionnelle à l'importance que nous avons accordée à cette chose. Et quand nous accordons trop d'importance à notre service pour Dieu, que ce soit un service à plein temps ou autre, eh bien, ça là devient de l'idolâtrie. Jésus-Christ en a parlé à un moment donné en s'adressant aux pharisiens, aux scribes. Il leur a dit... en parlant de lui-même, d'abord, je ne reçois pas ma gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Donc, quand nous recherchons la gloire qui vient des hommes, nous sommes dans une forme d'idolâtrie aussi qui va mal se finir. Et vous savez, le cœur humain est extrêmement tortueux, la Bible le dit aussi, Jérémie le dit. Vous prenez un homme lambda, un citoyen honnête, vous lui mettez un casque bleu sur la tête, vous l'envoyez en Centrafrique, entouré d'un groupe d'hommes dans un contexte particulier, et ça peut donner des dérives terribles dont nous avons parlé dans les actualités. Mais vous prenez ce même cœur humain et vous le mettez dans un pasteur ou un diacre ou une diaconesse, et au milieu d'une église, eh bien, le cœur humain est caméléon, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son environnement, mais il ne change pas de nature. Et il risque, par ses actions, de rechercher la gloire des hommes. Et cette recherche peut l'amener à faire des sacrifices louables pour le Seigneur, des sacrifices étonnants en termes de temps, d'énergie, de renoncement à soi. Mais malheureusement, il est fort à parier que les premiers sacrifiés sur l'autel de cette idolâtrie soient l'épouse et les enfants de ce même pasteur. Les épouses, j'ai un mot pour vous aussi, j'ai rencontré des épouses qui tirent aussi leur gloire du ministère ou du ministère de leur mari. Et cet attachement malsain peut produire aussi des mauvais fruits. Alors, quel remède pouvons-nous imaginer pour ça? Je vais afficher un tableau extrêmement simple que j'ai tiré de ce petit livre, d'ailleurs, où on compare Dieu et moi dans deux catégories bien différentes. Et le danger, bien sûr, c'est de confondre les choses et de se prendre pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de dormir. La Bible le dit, il ne sommeille ni ne dort. Moi, par contre, créature, j'ai besoin de dormir. Alors, c'est étonnant, on n'entendrait pas un responsable d'église se vanter, par exemple, de trop manger ou de trop boire. Ce serait mal vu. Mais on peut entendre de temps en temps un responsable d'église se vanter du fait qu'il ne dort que 4-5 heures par nuit et le reste, c'est pour le Seigneur. Eh bien, il outrepasse, à mon avis, son statut de créature, et ça risque de lui coûter cher à un moment donné. Dieu n'a pas besoin d'amis. Il est Trinité, il y a une communion parfaite au sein de la Trinité. Mais moi, j'ai besoin de relations ressourçantes. Je ne me suffis pas à moi-même. Attention à l'isolement dans le ministère. Dieu n'a pas besoin d'exercice. Moi, j'en ai besoin. Quand nous lisons la parabole des talents, nous faisons tout de suite une équivalence entre talents et les dons spirituels que le Seigneur nous a confiés. Mais vous êtes d'accord, je pense que par talent, le Seigneur entendait aussi tout, le temps que le Seigneur nous donne, l'argent que le Seigneur nous donne, mais aussi notre santé, qui est un bien qu'il nous demande de gérer pour sa gloire. Certains diront peut-être, mais il faut traiter durement son corps, comme l'apôtre Paul le dit lui-même, et effectivement, on a une discipline à exercer, mais tout dans la finesse de la gestion pour ménager sa monture, comme Étienne disait tout à l'heure. On peut penser à un Félix Neff, si vous avez lu sa biographie, qui est mort très jeune, épuisé par son ministère, ses trajets. Le Seigneur n'a pas besoin de repos. Certes, il s'est reposé le septième jour, mais je ne pense pas que c'était parce qu'il en avait besoin. C'était pour nous donner un modèle. J'ai quelquefois des amis pasteurs qui ne s'accordent pas ce type de sabbat. Je leur dis, bon, si tu te crois plus fort que Dieu, vas-y, continue. Mais à ta place, je ferai gaffe. Dieu n'a pas besoin d'apprendre. mais moi, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence. J'ai besoin de connaître de nouvelles choses. J'ai besoin d'assister à des séminaires comme celui-ci. J'ai besoin de lire de bons livres. J'ai besoin de débattre avec d'autres responsables d'église. Je pense vous mettre à contribution tout de suite. Il y aura un temps d'échange plus loin, mais je vais vous poser une question. C'est celle-ci. Quels pourraient être, selon vous, des signes avant-coureurs, des signaux faibles, si vous voulez, qu'on doit capter, des signes avant-coureurs d'un attachement trop fort au ministère, d'une dépendance qui serait malsaine, d'une idolâtrie du ministère? Alors, je ne demande pas un commentaire, je ne demande pas un débat, mais un genre de brainstorming à 200 que nous sommes. Juste une petite phrase. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire « Attention, j'accorde trop d'importance à ce ministère et le ministère prend la place de Dieu dans ma vie. » Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit? Parce que dans un atelier, on s'enrichit mutuellement très fort. D'accord, le recensement. Être heureux ou triste du nombre de personnes qui assistent à notre culte le dimanche matin. Autre chose. Penser que rien ne va se faire sans nous. Le complexe du Messie. Attention, c'est moi qui dois régler le chauffage. Le refus de la critique. Ou que ça fait mal la critique si le ministère est notre Dieu.
N'avoir aucun autre sujet de conversation que son propre ministère.
Aucun autre sujet de conversation que son propre ministère. Très bien. Vous pouvez redire, s'il vous plaît. Faire quelque chose parce que c'est écrit sur notre planning, mais pas pour Dieu.
Être frustré et agressif lors des réunions de conseil parce que les choses fonctionnent pas comme on le planifie.
Être frustré, irrité parce que lors d'un conseil d'église, les choses ne fonctionnent pas comme nous avions prévu.
Se croire irremplaçable.
Avoir du mal à déléguer. Dire mon Église. La jalousie du succès des autres. D'accord, je suis constamment pendu à mon téléphone, à mes emails, parce que les gens ont besoin de moi. Très bien, je vous remercie pour ces contributions qui me paraissent tout à fait pertinente. Et je repasse la parole à Étienne.
Ça sent le vécu. Nous vous proposons, en troisième volet, plus court, que pour tenir dans la durée, il est bon aussi de ne pas négliger ce qu'on pourrait appeler notre développement professionnel, avancer dans nos connaissances théologiques, nos connaissances des outils utiles dans le ministère, y compris technique, informatique, psychologique, sociologique, et quelquefois accepter de se déplacer, de changer de type de ministère. Et je vais à nouveau citer brièvement Bob Burns. De nombreux diplômés de nos instituts de formation sont surpris, une fois dans le ministère, de découvrir que leur rôle dans l'Église dépasse de loin les seules fonctions d'enseignement et de conseil. Ils sont tout autant, sinon plus, animateurs, gestionnaires, leaders, sans forcément avoir dans leur besace beaucoup d'outils nécessaires pour gérer ces aspects complexes de leur ministère. Ils sont pris de court par le nombre de conflits qu'ils découvrent, etc. J'arrête là. Citation. Deuxième courte citation. Importance de l'intelligence culturelle. Est-ce choquant de dire que le serviteur de Dieu ne peut se contenter de lire sa Bible et de prier ? Il doit aussi s'intéresser aux sciences sociales, à la culture, pour apporter une parole de Dieu pour son temps. Si la mesure de toute chose est la révélation définitive de Dieu dans la Bible, Dieu, en dispensant la grâce commune, a aussi permis aux scientifiques et aux artistes d'enrichir nos vies. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, que vous avez lu un livre qui ne soit pas écrit par un chrétien évangélique ? Un pasteur qui passe sous silence un événement sociétal majeur n'aide pas le peuple de Dieu à interpréter le monde selon une vision chrétienne. Fin de citation. Premier sous-point, avancer dans mes connaissances théologiques. On pourrait penser que je me suis trompé de page et que je reprends mes notes de tout à l'heure. Développement spirituel, non, pas tout à fait. On peut se tromper en pensant que parce que l'on étudie des textes et que l'on prépare des prédications et des études bibliques, on n'a plus besoin de soigner des temps de type culte personnel. Mais inversement, on peut se tromper en pensant que l'on n'a plus grand-chose à recevoir d'études dites académiques, là où nous en sommes, et qu'il nous faut maintenant digérer tout cela, se recueillir et faire de bonnes longues balades dans le bois. Les deux attitudes sont dommageables. Il nous faut en même temps soigner des temps de recueillement au pied de notre maître et en même temps nourrir notre pensée de connaissances plus approfondies et d'une compréhension plus fine des vérités bibliques et théologiques. Concrètement, c'est très bon de participer à un séminaire Évangile 21. Je suis l'heureux bénéficiaire, l'heureux témoin une fois de plus, de l'impact fort dans ma vie intérieure, là où c'est le plus profond, de connaissances dites académiques qui me sont présentées par ceux que Dieu nous a offert comme docteurs et prédicateurs. Il nous faut suivre des cours. Pourquoi pas donner des cours ? Il nous faut lire, il nous faut creuser, il nous faut accepter la notion de l'étude, même après 30 ans, 40 ans de ministère. Il nous faut être des étudiants de la parole. Deuxième sous-point, avancer dans mes connaissances des outils utiles dans le ministère. Technique, informatique, psychologique, sociologique. Quelques remarques en vrai, en vrac, avant les questions-réponses de tout à l'heure. Tout d'abord, essai d'une photo de nos milieux. Il me semble que dans nos milieux, on est quelquefois un peu négligent ici. Certains craignent qu'on se disperse plutôt que de se concentrer sur l'étude de la parole. D'autres, assez nombreux, sont déboussolés en arrivant dans le ministère de devoir faire face à tant de choses inattendues pour lesquelles ils sont peu équipés. Technique. Oui, la technique peut être un piège. Mais oui, la technique peut grandement nous aider. Et c'est bon de se former. La technique peut être au service de nos recherches et de notre enseignement. La technique peut être au service du soin que l'on va apporter à nos relations et de notre efficacité en tant qu'organisateur. Et les listes de diffusion et autres doodles peuvent nous aider. J'ai commencé par dire que la technique peut être un piège. Je suis d'accord. Troisième sous-point, quid de la psychologie et de la sociologie et des sciences humaines ? Oui, il nous faut nous souvenir que nous ne savons pas tout faire, que nous ne sommes pas des oraux, selon une image beaucoup moins théologique que Messie, et ne pas jouer au psy quand nous ne le sommes pas. Et pourtant, il peut être extrêmement utile de nous former plus dans ces différents domaines pour mieux comprendre, pour mieux conseiller, pour mieux déléguer et pour trouver des relais et pour travailler avec les relais. Témoignage de tout début de ministère, le milieu évangélique dans lequel j'étais sortait depuis peu de temps de l'idée que les psys étaient à fuir. Et je suis très reconnaissant d'avoir commencé mon ministère en bénéficiant de ce virage, parce que le jour où le grand directeur de la clinique de Montpellier m'a convoqué pour savoir ce que l'on pouvait faire pour telle dame qui s'était présentée comme membre de l'Église, j'aurais été bien bête de lui dire que je ne travaille pas avec les gens qui ne se nourrissent pas quotidiennement de la parole de Dieu. Parce que nous avons eu un super temps où nous avons réfléchi à la complémentarité entre l'Église, pour lui lieu social, mais quand même, et moi, comprenant un tout petit peu mieux ce que lui pouvait apporter à cette sœur. Dernier sous-point, peut-être changer. C'est aussi quelquefois se déplacer, changer d'église ou de type de ministère, un peu dans le style de ce que l'on peut appeler reconversion professionnelle. La persévérance, c'est bien. S'accrocher à son siège, c'est mal. C'est souvent dommageable et pas juste. Bénéficier des acquis et de l'expérience, c'est très pertinent et efficace. Mais les dangers de la routine des chemins trop connus sont très réels aussi. Donc, il nous faut être prêts à nous lancer sur de nouvelles pistes, à laisser d'autres prendre des relais et à accepter, nous, de redémarrer quelque chose en réapprenant sur des chemins que nous connaissons peu. Être prêt à relever de nouveaux défis. Et la vraie question, c'est laquelle ? Je vous propose ce qui m'a souvent aidé dans le ministère et dans l'accompagnement que j'ai voulu apporter à d'autres. La vraie question, c'est celle-ci. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est pour cela que je ne suis pas très à l'aise avec deux extrêmes. D'une part, la conception de ministère long quasi indéboulonnable. D'autre part, les changements de poste programmés et quasi automatiques. Et si Dieu me voulait plus longtemps au même endroit ? Et si Dieu voulait que j'aie cette fois-ci un ministère particulièrement bref ? J'ai vu des ministères brefs, très bénis. J'ai vu des ministères à vie, très bénis. La vraie question, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Donc, retour au point 1, il nous faut écouter le Maître, le connaître, reconnaître sa voix, Jean 10, les brebis connaissent sa voix, et le suivre, puisque lui sait ce qui est bon pour nous.
Je vous demande pardon, j'ai oublié un point important. Dans les positionnements, j'avais dit positionnement par rapport au ministère, je souhaite rajouter positionnement par rapport à notre famille. Je serai bref et puis la parole sera à vous pour des questions et des remarques pour que vous enrichissiez ce qui a déjà été dit. Très jeune marié et jeune pasteur, un vieux monsieur nous a donné deux très bons conseils. Le premier, c'était de me dire, Brad, dans l'ordre des priorités, mets en premier Dieu, ensuite ta famille, ensuite l'Église. Ça m'a choqué un petit peu au départ, ça ne me paraissait pas très spirituel. Il s'est empressé de m'expliquer que si je perdais ma famille, je perdais aussi du coup mon ministère. Et effectivement, l'apôtre Paul le dit à Timothée, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? J'ai eu cette grâce alors de pouvoir faire de ma famille une priorité. Je me suis toujours dit que j'avais deux églises, une petite et une grande. La première, c'est ma famille, dont je suis le berger aux yeux de Dieu, avec l'aide de mon épouse. Et le Seigneur me demandera des comptes un jour pour ce petit troupeau. Et puis, bien sûr, une deuxième église. Le deuxième conseil très utile que ce vieux monsieur nous a donné, m'a dit, Brad, une fois par semaine, tu vas t'asseoir avec ta femme. Tu lui prends par les mains. Et puis, il a pris les mains de mon épouse dans ses mains, comme ça. Tu vas la regarder dans les yeux. Et puis, il a regardé mon épouse dans les yeux. Il avait au moins 80 ans, ce monsieur. Et tu vas lui demander, comment vas-tu, ma chérie ? Et Est-ce que je t'ai offensé cette semaine? Et quelles sont en ce moment tes joies? Et quelles sont en ce moment tes luttes? Et quelles sont en ce moment tes préoccupations? Et qu'est-ce que je peux prier pour toi? Alors, nous avons eu la grâce de pouvoir mettre en pratique ce conseil depuis 35 ans. Notre truc, c'est de marcher un peu dans la nature. Donc, on n'est pas effectivement face à face, les mains dans les mains. On n'a pas respecté toutes les consignes. Mais en marchant, on se pose ces questions. Et je peux témoigner que cela a sauvé mon mariage et mon ministère.